Bonjour, chers auditeurs de Radio Silence, voici l'actualité religieuse de la semaine. Monseigneur Athanasius Schneider, évêque auxiliaire catholique au Kazakhstan, a donné le 27 mai 2014 en Angleterre une interview publiée sur le site Latin Mass Society concernant la crise dans l'Église. Voici le texte intégral de cette interview qui prouve qu'il y a encore des évêques fidèles dans l'Église. Le texte reflète aussi dans sa traduction en français par l'UNEC la fraîcheur de l'interview orale. Monseigneur Schneider, selon ma connaissance et expérience, la plaie la plus profonde dans la crise actuelle de l'Église est la plaie concernant l'Eucharistie, les abus du Saint-Sacrement. Beaucoup de gens reçoivent la Sainte Communion dans l'état objectif du péché mortel. Ceci se répand dans l'Église, surtout dans l'Occident. Là, les gens vont très rarement à la Sainte Communion avec une préparation suffisante. Quelques gens qui vont à la Sainte Communion se trouvent en situation morale irrégulière qui ne correspondent pas à l'Évangile. Sans être mariés, ils vont à la Sainte Communion. Ils peuvent être divorcés et vivre dans un nouveau mariage, un mariage civil, et ils vont quand même à la Sainte Communion. Je pense que c'est une situation extrêmement inquiétante. Il y a aussi la question de la réception objectivement irrévérente de la Sainte Communion. Ce que l'on appelle la nouvelle manière moderne de recevoir la Sainte Communion, directement sur la main, est un acte très grave, puisqu'il expose le Christ à une énorme banalité. Il y a le fait préoccupant de la perte des fragments eucharistiques. Personne ne peut nier cela. Et les fragments de l'hostie consacrée sont foulés par les pieds. C'est horrible. Notre Seigneur est écrasé par les pieds. Personne ne peut le nier. Et ceci a lieu partout. Ceci doit être, pour une personne ayant foi et amour pour Dieu, un phénomène très sérieux. Nous ne pouvons continuer comme si Jésus Dieu n'existait pas, comme si seulement du pain existait. Cette pratique moderne de la Sainte Communion dans la main n'a rien à faire avec la pratique dans l'ancienne Église. La communion dans la main contribue graduellement à la perte de la foi catholique en la présence réelle et en la transsubstantiation. Un prêtre et un évêque ne peuvent dire que cette pratique est OK. Ici, on joue avec ce qu'il y a de plus saint, de plus divin et de plus concret sur terre. Latin Mass Society. Vous êtes tout seul en défendant ce point de vue? Monseigneur, je suis fort attristé que je me sente comme un qui crie dans le désert. Que la crise eucharistique provient de l'utilisation moderne de la communion dans la main est une évidence. Ceci n'est pas une exagération. Il est temps que les évêques lèvent leur voix pour Jésus eucharistique, qui n'a pas de voix pour se défendre. Ici, il s'agit d'une attaque sur ce qu'il y a de plus saint, une attaque sur la foi eucharistique. Naturellement, il y a des gens qui reçoivent la Sainte Communion dans la main avec beaucoup de dévotion et foi, mais ils sont minoritaires. La grande masse est en train de perdre la foi par cette manière très banale de prendre la Sainte Communion comme une nourriture, comme un cake ou un gâteau. Une telle manière de réception de ce qu'il y a de plus saint sur terre n'est pas sacrée. Et elle finit par détruire la conscience profonde et la foi catholique en la présence réelle et en la transsubstantiation. Latin Mass Society. L'Église va-t-elle dans la direction opposée à la vôtre? Monseigneur, il paraît que la majorité du clergé et des évêques sont satisfaits de la pratique moderne de la communion dans la main, et ne réalise pas les vrais dangers liés à une telle pratique. Pour moi, c'est incroyable. Comment est-ce possible quand Jésus est présent dans la petite hostie? des vrais prêtres et évêques devraient se dire « Je dois faire quelque chose pour au moins réduire graduellement cette pratique. Je dois faire tout ce que je peux faire. » Mais malheureusement, il y a des membres du clergé qui font de la propagande pour l'utilisation moderne de la communion dans la main, et parfois ils empêchent même la réception de la communion sur la langue et à genoux. Il y a même des prêtres qui méprisent ceux qui se mettent à genoux pour recevoir la Sainte Communion. Ceci est d'une tristesse absolue. Il y a aussi l'augmentation des vols d'hosties, puisque la communion est donnée directement dans la main. Il y a un réseau, un commerce avec le vol des saintes hosties, rendu possible par la communion dans la main. Pourquoi exposerais-je, comme prêtre ou évêque, notre Seigneur à un tel danger, un tel risque? Si ces évêques ou prêtres qui approuvent la communion dans la main tenaient à quelques valeurs, ils n'exposeraient jamais ce trésor au grand risque d'être perdu ou volé. Ils protègent leur maison. Mais est-ce qu'ils protègent Jésus pour ne pas être volé si facilement? Latin Mass Society. Quant au questionnaire concernant la famille, les gens attendent des grands changements. Monseigneur, il y a sur ce sujet beaucoup de propagande publiée par les médias de masse. Nous devons être très attentifs. Il y a dans le monde entier les médias de masse officiels anti-chrétiens. Presque dans chaque pays, c'est le même contenu des nouvelles, à l'exception peut-être des pays africains et asiatiques ou de l'Europe de l'Est. Seul par l'Internet, vous pouvez répandre vos propres idées. Merci à Dieu que l'Internet existe. L'idée de faire des changements dans les lois du mariage et de la morale lors du prochain synode des évêques à Rome vient principalement des médias anti-chrétiens. Et quelques membres du clergé et catholiques collaborent avec eux dans la propagation des attentes du monde anti-chrétien en vue d'un changement de la loi de Dieu concernant le mariage et la sexualité. Il s'agit d'une attaque du monde anti-chrétien, et c'est fort tragique et triste que quelques clercs collaborent avec eux. Pour augmenter en faveur d'un changement de la loi de Dieu, ils utilisent, par une sorte de sophisme, le concept de la miséricorde. Mais en réalité, ce n'est pas de la miséricorde, c'est une cruauté. Ce n'est pas de la miséricorde, par exemple, si quelqu'un qui a une maladie est laissé dans sa condition misérable, c'est une cruauté. Par exemple, je ne donnerai pas du sucre à un diabétique, ce serait cruel de ma part. J'essayerai de sortir la personne de cette situation et lui donnerai un autre repas. Peut-être au début elle n'aimerait pas ça, mais cela sera mieux pour elle. Ceux du clergé qui veulent admettre les divorcés et remariés à la Sainte Communion agissent selon un faux concept de la miséricorde. C'est comparable à un médecin qui donnerait du sucre à son client, sachant que cela le tuera. Mais l'âme est plus importante encore que le corps. Si les évêques admettent les divorcés et remariés à la Sainte Communion, ils les confirmeraient dans leurs erreurs face à Dieu. Ils feront même taire la voix de leur conscience. Ils les enfonceront encore plus dans leur situation irrégulière seulement en n'en tenant compte de cette vie sur terre, en oubliant la vie après celle-ci. Pourtant, il y aura là le jugement de Dieu. Ce problème sera discuté pendant le synode. C'est inscrit sur le programme des sujets à traiter. Mais j'espère que la majorité des évêques ait encore assez d'esprit catholique qu'ils rejettent la proposition mentionnée ci-dessus et qu'ils ne l'acceptent pas. Latin Mass Society. Quelle est la crise que vous mentionnez? Monseigneur, là, il s'agit d'une crise plus large que la réception du Saint-Sacrement. Je pense que ce thème de la réception de la Sainte Communion par les remariés explosera et fera apparaître la vraie crise dans l'Église. La véritable crise dans l'Église est l'anthropocentrisme, en oubliant le christocentrisme. En fait, c'est le pire des maux quand l'homme ou le clergé se mettent au centre lorsqu'ils célèbrent la liturgie et quand ils changent la vérité révélée de Dieu, par exemple concernant le sixième commandement et la sexualité humaine. La crise se révèle aussi dans la manière de laquelle le Seigneur eucharistique est traité. L'Eucharistie se trouve au cœur de l'Église. Quand le cœur s'affaiblit, tout le corps s'affaiblit. Donc si la pratique concernant l'Eucharistie s'affaiblit, alors le cœur et la vie de l'Église tout entière est faible. Et si les gens n'ont plus une vision surnaturelle de Dieu dans l'Eucharistie, alors ils commenceront le culte de l'homme. Et alors la doctrine aussi changera selon le souhait de l'homme. La crise est là quand nous nous plaçons nous-mêmes, y compris les prêtres, au centre. Et si Dieu est rangé dans un coin, et ceci se passe aussi matériellement. Le Saint-Sacrement se trouve parfois dans une armoire, loin du centre, et le fauteuil du prêtre est au centre. Nous nous trouvons déjà depuis 40 ou 50 ans dans cette situation, et le danger réel existe que Dieu et ses commandements et lois soient rangés de côté, et que les désirs naturels de l'homme soient placés au milieu. Il y a une connexion de cause à effet entre l'Eucharistie et la crise doctrinale. Notre premier devoir comme être humain est d'adorer Dieu, non pas nous-mêmes, mais lui. La participation à la liturgie consiste tout d'abord non pas à faire des choses, mais à prier et adorer, à aimer Dieu de toutes ses forces. Voilà la véritable participation, être uni avec Dieu en notre âme. La participation extérieure n'est pas essentielle. La crise est réellement celle-ci. Nous n'avons pas mis le Christ ou Dieu au centre, et le Christ est Dieu incarné. Notre problème aujourd'hui est que nous oublions l'incarnation. Nous l'avons éclipsée. Si Dieu reste seulement dans mon esprit comme une idée, c'est de la gnose. Dans d'autres religions, par exemple juives ou musulmanes, Dieu n'est pas incarné. Dieu est dans le livre, mais il n'est pas concret. Seulement dans la chrétienté et en vérité dans l'Église catholique, l'incarnation est pleinement réalisée. Et c'est pourquoi ceci doit être mis en exergue dans chaque liturgie. Dieu est ici, vraiment présent. Ainsi, chaque détail a sa signification. Nous vivons dans une société non chrétienne, dans un nouveau paganisme. Aujourd'hui, la tentation pour le clergé est de faire des adaptations au nouveau monde, au nouveau paganisme, d'être des collaborateurs. Nous sommes dans une situation similaire comme au premier siècle, quand la majorité de la société fut païenne et le christianisme discriminé. Latin Mass Society. Pensez-vous que vous en êtes conscient à cause de vos expériences dans l'Union soviétique? Monseigneur, oui, je sais ce que c'est d'être persécuté, de témoigner que vous êtes un chrétien. Nous sommes une minorité. Nous sommes entourés par un monde païen très cruel. La tentation et le défi d'aujourd'hui peuvent être comparés avec les premiers siècles. On exigeait des chrétiens d'accepter le monde païen et de le prouver en mettant un grain d'encens dans le feu devant la statue de l'empereur ou d'une idole païenne. Mais c'était de l'idolâtrie, et aucun bon chrétien n'a déposé un grain là-bas. Ils ont préféré de donner leur vie. Même des enfants, des laïcs persécutés, donnaient leur vie. Malheureusement, il y avait au premier siècle des membres du clergé et même des évêques qui ont déposé des grains dans l'encens devant la statue de l'empereur ou d'une idole païenne. ou qui ont transmis les livres de la Bible afin qu'ils soient brûlés. De tels collaborateurs chrétiens et clercs furent appelés en ces temps des turificati ou traditores. Mais de nos jours, la persécution est plus sophistiquée. On ne demande pas aux catholiques ou aux clergés de déposer de l'encens devant une idole. Ceci serait trop matériel. Maintenant, le monde néo-païen nous demande d'accepter leurs idées. Par exemple, la dissolution du sixième commandement de Dieu, ou le prétexte de la miséricorde. Si des prêtres et évêques commencent aujourd'hui à collaborer avec le monde païen dans la dissolution du sixième commandement et dans la révision de la manière dont Dieu a créé homme et femme, alors ils trahissent leur foi, ils participent finalement au sacrifice païen. Latin Mass Society. Voyez-vous venir une scission dans l'Église? Monseigneur, malheureusement, pendant quelques décennies, quelques clercs ont accepté ces idées du monde. Par contre, maintenant, ils les suivent publiquement. Si ces choses continuent, je pense qu'il y aura une séparation intérieure dans l'Église de ceux qui sont fidèles à leur foi, à leur baptême et à l'intégralité de la foi catholique. Il y aura une scission avec ceux qui assument l'esprit de ce monde. Oui, je pense qu'il y aura une scission. Peut-on imaginer que des catholiques qui restent fidèles à la vérité catholique inchangeable puissent être persécutés ou méprisés pendant un certain temps, même par ceux qui ont du pouvoir dans les structures extérieures de l'Église? Mais les portes de l'enfer, c'est-à-dire de l'hérésie, ne prévaudront pas contre l'Église, et le magistère suprême produira sûrement un texte doctrinal qui rejette toute collaboration avec les idées néo-païennes de changer, par exemple, le sixième commandement de Dieu, la signification de la sexualité et de la famille, etc. À ce moment-là, beaucoup de libéraux et beaucoup de collaborateurs avec l'esprit de ce monde, beaucoup de turificati et traditores modernes quitteront l'Église. Car la vérité divine apportera irrésistiblement la clarification, nous rendra libres et séparera au milieu de l'Église les fils de la lumière divine des fils de la lumière illusoire de ce monde païen et antichrétien. Je voudrais supposer qu'une telle séparation s'appliquera à tout niveau des catholiques, aux laïcs et même à certains membres du clergé supérieur. Ces membres du clergé qui acceptent aujourd'hui l'esprit du monde païen au sujet de la morale et de la famille se déclarent catholiques, oui, et même obéissants au pape. Ils vont jusqu'à déclarer extrémistes ceux qui sont fidèles à la foi catholique ou ceux qui cultivent la gloire du Christ dans la liturgie. Latin Mass Society. Avez-vous l'impression qu'on vous traite comme un extrémiste? Monseigneur, je n'ai pas été formellement déclaré comme tel. Je dirais que ces clercs ne sont pas majoritaires, mais ils ont accaparé beaucoup d'influence dans l'Église. Ils sont arrivés à occuper quelques positions clés dans certaines administrations de l'Église. Cependant, ce n'est pas du pouvoir aux yeux de Dieu. Réellement puissants sont les petits dans l'Église, ceux qui gardent la foi. Ces petits dans l'Église ont été dégradés et négligés. Ils ont gardé la pureté de leur foi et ils représentent le vrai pouvoir de l'Église aux yeux de Dieu, et non pas ceux qui sont dans les administrations. Grâce à Dieu, le nombre de ces petits va en grandissant. J'ai par exemple parlé avec des jeunes étudiants à Oxford, et j'étais très impressionné par ces étudiants. J'étais très heureux de voir la pureté de leur foi et de leurs convictions, ainsi que leur esprit clairement catholique. De tels exemples et groupes sont en augmentation dans l'Église. Ceci est le travail du Saint-Esprit. Ceci renouvellera l'Église. Ainsi, je suis confiant et plein d'espoir aussi par rapport à cette crise dans l'Église. L'Esprit Saint vaincra cette crise avec cette petite armée. Je ne me fais pas de soucis pour l'avenir de l'Église. L'Église est l'Église du Christ et c'est lui le véritable chef de l'Église. Le pape est seulement le vicaire du Christ. L'Esprit de l'Église est le Saint-Esprit et celui-ci est puissant. Cependant, nous vivons actuellement une profonde crise dans l'Église, comme c'est arrivé à plusieurs reprises pendant 2000 ans. Latin Mass Society. Est-ce que cela deviendra pire avant de se résorber? Monseigneur, j'ai l'impression que cela s'empirera. Parfois, les choses doivent aller jusqu'aux abîmes, et puis vous verrez le collapse de ce système anthropocentrique clérical qui abuse du pouvoir administratif ecclésial, de la liturgie, des concepts de Dieu, de la foi et de la piété des petits dans l'Église. C'est alors que nous verrons se lever une Église renouvelée. Cela se prépare déjà. Alors cet édifice clérical libéral s'écroulera parce qu'il a des racines, mais pas de fruits. Latin Mass Society. Quelques-uns disent que vous vous souciez de choses peu importantes. Qu'est-ce que vous dites concernant les pauvres? Monseigneur, c'est faux. Le premier commandement que Dieu nous a donné était d'adorer Dieu seul. La liturgie n'est pas une rencontre entre amis. C'est notre premier devoir d'adorer et de glorifier Dieu dans la liturgie et aussi dans notre style de vie. La vraie adoration et le vrai amour de Dieu génèrent l'amour pour les pauvres et notre prochain. C'est la suite logique. Les saints, pendant 2000 ans de l'Église, tous ces saints qui étaient si pieux et fervents en prière, ils étaient tous extrêmement charitables envers les pauvres en venant à leur secours. Dans ces deux commandements, il y a tous les autres. Mais le premier commandement est d'aimer et d'adorer Dieu, et ceci est réalisé d'une façon suprême dans la Sainte Liturgie. Si vous négligez le premier commandement, vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous vous faites plaisir à vous-même. Le bonheur est d'accomplir la volonté de Dieu, et non pas de suivre notre propre volonté. Latin Mass Society. Combien de temps passera-t-il avant que l'Église soit renouvelée? Monseigneur, je ne suis pas un prophète. Mais si vous regardez l'histoire de l'Église, la crise la plus profonde était au IVe siècle. C'était l'arianisme. C'était une crise énorme. Tous les évêques, presque tous, collaboraient avec l'hérésie. Seulement quelques évêques restaient fidèles, vous pouviez les compter sur les doigts de la main. Cette crise a duré à peu près 60 ans. Ensuite, la terrible crise de ce qu'on appelle le siècle obscur, le 10e siècle, quand la papauté était occupée par quelques familles romaines méchantes et immorales. Elles ont occupé le siège papal avec leur fils corrompu, et c'était une crise terrible. La période malsaine suivante était ce qu'on appelle l'exil d'Avignon, qui a porté grand dommage à l'Église menant au grand schisme occidental. Toutes ces crises duraient quelques 70 à 80 années et furent très mauvaises pour l'Église. Maintenant, nous sommes, je dirais, dans la 4e grande crise, dans une confusion effroyable concernant la liturgie et la doctrine. Nous y sommes déjà depuis quelques 50 ans. Peut-être Dieu nous sera-t-il miséricordieux dans 20 ou 30 ans. Néanmoins, nous avons toute la beauté des vérités divines, de l'amour et de la grâce de Dieu dans l'Église. Personne ne peut nous enlever cela, aucun synode, aucun évêque. Même le pape ne pourra enlever le trésor et la beauté de la foi catholique concernant Jésus dans l'Eucharistie et les sacrements. La doctrine inchangeable, les principes liturgiques inchangeables, la sacralité de la vie constituent le véritable pouvoir de l'Église. Latin Mass Society. Notre époque est considérée comme une ère beaucoup plus libérale dans l'Église. Monseigneur, nous devons prier que Dieu daigne sortir son Église de cette crise et donner à son Église des apôtres qui soient courageux et saints. Nous avons besoin de défenseurs de la vérité, de défenseurs de Jésus dans l'Eucharistie. Quand un évêque défend son troupeau et défend Jésus dans l'Eucharistie, cet évêque défend les petits dans l'Église et non pas les puissants. Latin Mass Society. Donc vous n'avez pas peur d'être impopulaire. Monseigneur, il est peu important d'être populaire ou impopulaire. Pour tout membre du clergé, la première importance consiste à être populaire aux yeux de Dieu, et non pas aux yeux du monde d'aujourd'hui ou des puissants. Jésus nous a prévenus. Malheur sur vous si les gens disent du bien de vous. La popularité est aussi une fausse piste. Jésus et les apôtres ont rejeté la popularité. Des grands saints de l'Église, par exemple les saints Thomas More et John Fisher, ont rejeté la popularité, et pourtant ils sont les grands héros. Et de ceux qui se soucient aujourd'hui de la popularité dans les médias de masse et dans l'opinion publique, ne restera rien dans l'histoire. On se souviendra d'eux peut-être comme des lâches, et non pas comme des héros de la foi. Latin Mass Society. Les médias attendent beaucoup du pape François. Monseigneur, je remercie Dieu que le pape François ne se soit pas exprimé de la façon que les médias de masse attendent de lui. Il a présenté jusqu'à présent, dans ses allocutions publiques, une très belle doctrine catholique. J'espère qu'il continuera d'enseigner la doctrine catholique d'une façon très claire. Latin Mass Society. En partageant la Sainte Communion avec les Anglicans et d'autres? Monseigneur, ce n'est pas possible. Il s'agit de croyances différentes. La Sainte Communion n'est pas un moyen pour arriver à l'unité. C'est le dernier pas et non pas le premier. Ce serait une désacralisation du Saint du Saint. Naturellement, nous devons être unis, mais nous avons des différences de foi et même quelques différences substantielles. L'Eucharistie est le signe de l'unité la plus profonde. Ce serait un mensonge, contraire à la logique, de partager la Sainte Communion avec des non-catholiques. L'œcuménisme est nécessaire pour être en contact avec nos frères séparés, pour les aimer. Au milieu du défi du nouveau paganisme, nous pouvons et devons collaborer avec des non-catholiques sérieux pour défendre la vérité divine révélée et la loi naturelle créée par Dieu. Il sera mieux de ne pas avoir une structure où l'État gouverne la vie de l'Église, par exemple en désignant le clergé ou les évêques. Une telle pratique d'Église d'État porterait dommage à l'Église elle-même. En Angleterre, par exemple, l'État gouverne l'Église d'Angleterre. Une telle influence de l'État peut corrompre l'Église spirituellement et théologiquement. Ainsi, il est préférable d'être libéré d'une telle Église d'État établie. Latin Mass Society. Et concernant les femmes dans l'Église? Monseigneur, les femmes sont appelées le sexe faible, étant donné qu'elles sont physiquement plus faibles, mais spirituellement, elles sont plus fortes et plus courageuses que les hommes. Il faut du courage pour donner naissance. C'est pourquoi Dieu a donné à la femme un courage que l'homme n'a pas. Naturellement, il y avait beaucoup d'hommes courageux dans les persécutions. Pourtant, Dieu aime choisir les faibles pour confondre les puissants. Par exemple, les femmes eucharistiques, dont j'ai parlé dans mon livre « Dominus Est », travaillaient dans leur famille et souhaitaient aider les prêtres persécutés d'une façon très exceptionnelle. Elles n'auraient jamais osé de toucher les saintes hosties avec leurs doigts. Elles auraient même refusé de lire des textes pendant la messe. Ma mère, par exemple, qui vit encore en Allemagne, âgée de 82 ans, était fortement choquée et scandalisée à son arrivée à l'Ouest en voyant des femmes dans le sanctuaire pendant la Sainte Messe. Le vrai pouvoir de la femme chrétienne et catholique est le pouvoir d'être le cœur de la famille, l'Église domestique, d'avoir le privilège d'être la première à donner la nourriture au corps du petit bébé, mais aussi la première à donner la nourriture à l'âme de l'enfant, en lui enseignant la première prière et les premières vérités de la foi catholique. La plus noble et belle profession d'une femme est d'être mère, et particulièrement une mère catholique. Fin de l'interview. Au revoir, chers auditeurs, à la semaine prochaine.